L'armée nomade fondit comme un essaim carnivore sur les lignes adverses. Les armées de Kouam et de Sako attendaient, le pied enfoncé en terre sans bouger, ils attendaient le bouclier en avant, prêts à recevoir les stocks. À la vue de cette masse de piques et d'épées qui couraient sur eux, ils recommandèrent leur âme à la terre. Le choc fut terrible. La charge des bêtes renversa les hommes et éventra les boucliers. Ils étaient engloutis sous les sabots. Les attaquants, comme une vague que rien n'arrête, leur marchaient dessus. Nombreux furent ceux qui périrent ainsi, disloqués par le poids de l'ennemi, asphyxiés sous la mêlée, écrasés par des chars qui percutaient de plein fouet les lignes. Cette charge immense frappa les armées de Massaba comme un coup de masse donné en pleine tête. Et elles reculèrent sous l'énorme élan de l'ennemi. Alors commença le corps à corps immonde des combattants qui s'égorgent. Partout, les hommes de Kouam et Sako périssaient. Ils avaient peur. La vision de cette charge qui les avait broyés avait fait naître en eux la terreur. Ils étaient moins sûrs au combat. Leur corps hésitait. Ils cherchaient du regard un appui, tandis qu'en face, l'armée nomade continuait d'avancer sous la poussée d'une prodigieuse fureur. Seuls les mâcheurs de Kat se battaient avec bravoure. Les drogues en eux avaient dissipé toute peur. Ils ne s'occupaient de rien d'autre que de donner des coups. Les chiennes de guerre d'Arcalas se battaient avec rage, mais un destin horrible les attendait. Bandiagara les engloba du regard, ces milliers d'hommes travestis qui lui faisaient horreur, et il dessina dans l'air le mot secret que ses aïeux lui avaient confié. Brusquement, leurs esprits se voilèrent. Ils se regardaient les uns les autres et voyaient en leur frère un ennemi à exterminer. Les chiennes, alors, se ruèrent les unes sur les autres, persuadées de continuer le combat, laissant à côté d'elles les véritables ennemis, et ce fut le spectacle horrible d'une armée qui s'entre-déchire. Les hommes d'Arcalas, tout peignés et apprêtés, se jetaient les uns sur les autres et se mordaient la chair jusqu'à la mort. Ils riaient de démence en se tuant, dansaient parfois sur le corps de leur ami d'enfance. Et Arcalas lui-même, comme un ogre fou, cherchait des yeux partout quelqu'un de son clan pour lui ouvrir les flancs et boire son sang. Lorsque le reste de l'armée comprit que non seulement les hommes d'Arcalas ne combattaient plus, mais qu'en plus ils s'entremutilaient, la panique courut d'un point à un autre du front. Tous, alors, se mirent à courir pour échapper à la mort. Les cris ulcérés de Kouam ne parvenaient à retenir personne. Chacun ne pensait plus qu'à sauver sa vie. Les cavaliers piquèrent les flancs de leurs montures, les guerriers jetèrent à terre leurs boucliers et leurs armes pour pouvoir courir plus vite. Ils se ruaient tous vers les portes de Massaba pour se mettre à l'abri. Tramon périt. Arrêté dans sa course par Sangokérim qui lui planta en plein dos sa longue lance affûtée. La vie s'échappa de lui et il s'écroula à terre, la pique bien droite dans la colonne vertébrale. L'armée était en déroute, pressée par les glaives ennemis qui marchaient sur ses talons et fauchaient tous ceux qui étaient trop lents. Seul, Arcalas, combattant horrible et dérisoire, luttait encore. Il tua le dernier de ses hommes d'un coup de masse qui lui broya les cervicales. Alors seulement le sort de Bandiagara se dissipa et Arcalas recouvra ses esprits. Il vit à ses pieds des dizaines d'hommes qu'il connaissait. Il était juché sur une montagne de corps et le sang qui lui couvrait le visage avait le goût familier des siens. Il serait resté là écrasé de terreur, la tête dodelinant, le visage baigné de pleurs, si Gonomor ne l'avait emmené avec lui, escorté par les hommes fougères pour le mettre à l'abri dans l'enceinte de Massaba.